lisons dans Apocalypse 14. Apocalypse 14. Verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux. Mais leurs œuvres les suivent. On peut lire dans votre version aussi. Est-ce que quelqu'un peut lire dans votre version?
Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Voilà, donc, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mais j'ai beaucoup aimé cette version qui dit, mais leurs œuvres les suivent. Donc, je veux parler du projet du Seigneur qui est un projet lié à l'éternité, un projet éternel pour chacun d'entre nous. Et un jour, il y aura des complications sur la terre où le Seigneur va nous dans lesquelles le Seigneur va nous secouer pour nous faire comprendre que son projet pour nous est éternel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui durera des milliards, des milliards, des milliards d'années sans fin et que nous sommes dans une préparation ici sur terre. On a tendance à croire que la terre est aussi une sorte d'achèvement. La terre n'est pas un achèvement. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Il y a une sorte de petit achèvement. Parce qu'avant de sortir du ventre de sa mère, il y a des choses qui doivent croître en lui. Il doit avoir un estomac, des poumons, tout ça pour affronter la vie à l'extérieur, la vie dans le monde. Mais dans le ventre de sa mère, pour le médecin qui suit la maman, quand l'enfant est, entre guillemets, complet, Pour ce médecin, c'est comme une sorte d'achèvement. Et lui ne s'intéresse qu'à ça. Lui, il ne se préoccupe pas de ce que sera cet enfant plus tard. Son problème, c'est que cette maman-là accouche de mon enfant. C'est ça qui l'intéresse. Malheureusement, nous prenons un peu ce chemin-là. Nous croyons en Dieu, nous faisons les choses de Dieu, mais nous sommes beaucoup plus intéressés par le temps de préparation, donc le temps dans le ventre, ce n'est pas mauvais, et moins intéressé par le temps après. C'est quelque chose d'humain. L'humain, comme on dit, comme Thomas dit, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Donc l'humain veut toucher, veut voir la fin des choses pour pouvoir bien s'impliquer. Il s'intéresse souvent à des choses dont il peut voir le bout, malheureusement, il est semblable donc à ce médecin qui suit la grossesse. Il s'intéresse à l'enfant qui va naître, mais il ne s'intéresse pas à l'enfant qui va exister dans le monde et qui va croître. Or, la plus grande partie de l'enfant, de la vie de cet homme, de cette créature, ce n'est pas dans le ventre de sa maman, ça ce n'est qu'une préparation. Et c'est comme ça que nous devons prendre les choses. Et quand on ne prend pas les choses comme ça, et qu'on est quand même un enfant de Dieu, ou un humain, parce que Dieu est bon envers tous, il va permettre des circonstances qui vont nous secourir, qui vont nous rappeler qu'il faut bâtir pour l'éternité. Il ne faut pas se tromper et investir pour la terre. Parce que tôt ou tard, les choses de la terre passeront. Et même, il y a des gens qui diront, mais moi, j'ai investi pour la prédication, pour les choses spirituelles. Mais même dans 1 Corinthiens 13, on nous dit qu'il n'y aura plus de prophéties plus tard. Il n'y aura plus de dons spirituels. Il n'y aura plus tout ça. Mais l'amour subsistera. Donc un chrétien intelligent, c'est celui qui, après avoir tout vu, il se dit, je vais investir dans ce qui est éternel. Dans l'amour, dans le don de soi, dans ce qui est éternel. Et ça a été le piège de beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés parce qu'ils ont négligé la partie éternelle. Surtout nous qui sommes de la Nouvelle Alliance. On peut comprendre encore. On peut excuser humainement parlant des gens de l'Ancien Testament qui avaient comme une sorte d'aboutissement le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais nous, nous avons reçu bien que par l'enseignement que notre terre promise est au ciel. Nous, notre départ, il est déjà au ciel directement. Alors que eux, leur départ n'est pas toujours au ciel directement. C'est la délivrance de l'Égypte et ainsi de suite. C'est la victoire sur les Cananéens, sur les gens qui étaient dans la terre promise. Mais nous, notre départ est directement au ciel. Et le Seigneur veut nous rappeler que nous devons investir par rapport au ciel. Nous devons travailler par rapport au ciel. Vous savez, même dans les choses de Dieu, si on ne se concentre pas sur le ciel, on va faire de grandes erreurs. On va préférer prêcher là où il y a 300 personnes qui nous écoutent. Je dis, mais là, c'est utile. Il y a beaucoup de gens qui... Donc, quand on aura le choix, on te dit, ben, tu es invité dans une église de 300 personnes, en même temps, tu es invité dans une église de 15 personnes. Si on n'a pas une vision céleste des choses, on dira, où est-ce que je serai le plus utile? Voilà la vision humaine. Où est mon utilité? Mon utilité, c'est là où il y a 300. Ma parole va être entendue par beaucoup plus de gens. On peut rester même dans le cadre spirituel comme ça en disant, mais oui, je sauverai plus de gens si je prêche devant 300 personnes. Mon utilité se trouve là. C'est ça les erreurs que nous commettrons. C'est ça. Pourquoi? Parce que nous regardons les choses d'une manière terrestre. Quand on dit on regarde les choses d'une manière terrestre, il ne s'agit pas seulement d'acheter des voitures, des maisons, ou tout seul de se concentrer sur des projets familiaux. Non, ça c'est encore plus bas. Mais il y a encore des choses qu'on peut appeler spirituelles, mais qui restent terrestres. Notre mentalité reste terrestre. Je veux être efficace, et dans la logique de l'efficacité, je choisis de parler au plus grand nombre. Alors que l'efficacité, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. L'efficacité, c'est entrer dans le projet éternel de Dieu. C'est ça que je voulais rappeler ce matin, que nous puissions bâtir dans une logique éternelle. Voilà l'invitation de Dieu. Travailler dans une logique éternelle. Tout ce qu'on s'amasse ici, toutes ces choses-là, elles en passera. Même les enfants que nous produisons, un jour, on n'aura pas les mêmes rapports. Donc, tout ce qu'on construit dans une logique de réussite visible, éternelle, Dieu n'est pas contre ça. Dieu nous dit tout simplement de commencer par l'éternité, chercher d'abord le royaume des cieux, et vous aurez le reste. Dieu n'est pas contre qu'on soit avec... qu'on ait une belle maison, qu'on ait une bonne voiture. Il n'est pas contre tout ça. Il nous explique tout simplement que, mais ça passera. Tu ne peux pas investir ta vie là-dessus, investis ta vie sur ma volonté, et dans ma volonté, tout le reste tu y as, et d'une manière éternelle. Et le Seigneur Jésus nous a donné lui-même l'exemple. Il s'est occupé de la volonté du Père, mais aujourd'hui, qui est content? C'est lui qui est content, parce qu'il est mort, il est ressuscité, maintenant nous pouvons être vainqueurs du diable, maintenant nous sommes sauvés. Si Jésus n'avait pas regardé au projet éternel de son Père, il aurait contesté, il aurait dit, mais moi je n'ai pas péché, moi je n'ai pas fait de mal, pourquoi je vais me retrouver à la croix? Mais il a regardé au projet éternel. Il aurait dit, mais moi je suis le Fils de Dieu, je mérite la royauté maintenant. Non, il a dit, le projet du Père, c'est que je meure d'abord. C'est ce qui est écrit là. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts. C'est-à-dire que c'est au moment où tu meurs, bien-aimé, c'est là que commence ton règne. Ça, il faut vraiment que ça entre en nous. Au moment où nous mourrons, notre règne commence. Ça montre combien, quand on a cette conception, on est heureux de se sacrifier, de se donner, parce que on se dirige vers notre couronnement. Mais qu'on n'a pas encore vu, bien sûr, l'enfant dans le ventre de la maman. Il n'a pas vu ce qui se passe à l'extérieur. Donc il est très bien dans son confort. Hein. Il va viser être beaucoup plus fort, beaucoup plus bougé, mais le vrai avantage, c'est de sortir de ce ventre-là, entrer dans le monde normal. C'est ça le vrai avantage. Parce que tôt ou tard, le ventre va devenir étroit. Parce que lui, c'est un être qui est amené à croître. Et nous, nous avons un projet éternel avec Dieu. Tôt ou tard, la terre va devenir étroite pour nous. Tôt ou tard. Mais la gloire de Dieu est trop grande. Et nous sommes appelés à vivre cette gloire. Et plus le temps passe, la terre va devenir étroite et inhospitalière pour nous. Notre couronnement, c'est après notre mort. Heureux. Donc celui qui écrit l'Apocalypse dit, mais les gens qui meurent dans le Seigneur, oh, ils doivent être heureux parce que ça commence maintenant leur vie. Ça commence maintenant leur gloire. Ce n'est pas un échec. Mais c'est le deuxième détail qui est très important. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais leurs œuvres les suivent. Parce qu'on le dit pourquoi, mais leurs œuvres les suivent. Parce qu'il s'agit des gens qui ont travaillé pour Dieu, mais qui semblent avoir échoué. Parce qu'aujourd'hui, quel est le projet d'un chrétien? Bon, devenir pasteur, faire... On reste même... Déjà, entre nous, on a bien compris que déjà le projet humain, c'est déjà niveau inférieur. Là, on monte même dans les niveaux spirituels. On dit, je veux prêcher pour sauver les âmes, je veux faire ceci pour faire ceci, je veux jouer à la guitare pour les âmes. Oui, d'accord, tous ces projets-là. Quand on le fait dans une optique terrestre, c'est-à-dire de réussite terrestre, Dieu est contre ça. Maintenant, les vrais chrétiens, qu'est-ce qui va se passer avec les vrais chrétiens? Eux, ils vont investir d'une manière spirituelle, en regardant la volonté de Dieu. Soit entre 300 ou 15, l'Esprit Saint lui dit, va là où il y a 15 personnes. L'Esprit Saint te pousse à aller sauver une contrée. Tu arrives là-bas 10 ans, comme j'ai un livre de Joan Schelte. Elle est partie traduire la Bible dans une tribu de Balangaou. Pour arriver dans cette tribu-là, la route s'arrête quelque part et il faut marcher 2 jours. Elles étaient à deux femmes. Elles devaient s'installer dans cette tribu-là, les coupeurs de tête, pour traduire la Bible dans leur langue. Avec un tel sacrifice, on se dit, les résultats sont très grands, rapidement, mais on arrive là, 6 ans, aucune conversion. Et la traduction de la Bible, lente, 6 ans. Mais quand tu es dans une logique humaine, tu te dis, bon, ça ne produit pas de fruits, je change d'endroit, je serai beaucoup plus utile dans une grande église américaine, retourner chez moi. Non, quand on a une logique éternelle, on suit la volonté de Dieu. 6 ans, pas de conversion. C'est ça, bien aimé. Mais après, il y a eu bien sûr de conversion. Mais en fin de compte, cette femme-là, elle a fait 20 ans pour traduire la Bible dans cet endroit-là. 20 ans. Toi, une américaine, dans une tribu. Vous imaginez, dans ces endroits-là, il n'y a pas de toilettes comme nous on a ici, il n'y a pas de cuisine comme on a. Eh bien, elle a vécu dans ces conditions-là 20 ans. Et une fois, elle était dans un hélicoptère qui amenait des choses pour le travail qu'elle faisait. L'hélicoptère est tombé avec elle dedans. Et elle est tombée malade avec elle a été touchée avec des douleurs abominables pendant un certain temps à l'hôpital. Mais elle a fini la traduction. Et certainement, elle ne s'est pas mariée. Parce que quand, voilà, tel que j'ai lu l'histoire, je ne pense pas qu'elle se soit mariée. Alors, pour les observateurs extérieurs, c'est une vie gâchée. Elle n'a pas profité de la terre. Mais non, nous, nous avons un projet éternel. C'est ça la différence. Notre projet est éternel. C'est pourquoi ce verset dit « heureux ». Donc, la fête commence le jour de la mort. Alors, l'exhortation, c'est se préparer à cette fête-là. Bâtir dans les projets éternels de Dieu et non pas dans la logique humaine de réussite physique. Et même quand c'est des choses spirituelles, parce que cette dame aurait été bien utile, humainement parlant, aux États-Unis, mais elle a été plus utile encore en sauvant des coupeurs de tête. Les coupeurs de tête sont devenus des évangélistes qui allaient de village en village annoncer l'évangile. C'est beau à entendre, c'est beau, juste à lire, c'est extraordinaire de voir une telle transformation. Des gens qui t'auraient tué en te voyant, mais sont devenus des annonceurs de la bonne nouvelle, parce que cette dame a voulu investir dans les choses éternelles. 20 ans. Aujourd'hui, qui veut traîner comme ça? Les gens disent, ah, ça fait 10 ans qu'on prie pour telle chose. Ça fait 5 ans qu'on prie. Mais oui, on investit dans l'éternité. Et pour mieux saisir l'investissement de l'éternité, Dieu va nous mettre dans des situations où on ne voit pas trop le bout, humainement parlant. C'est fait exprès pour nous ramener à bâtir dans l'éternité. De sorte que quand on meurt, on n'est pas trop au clair. Hein. Même le grand Paul, nous on trouve Paul extraordinaire, mais même le grand Paul dans 2 Timothée 4, 7, qu'est-ce qu'il dit? On va lire 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. On commence par le verset 6. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Hein. Chez vous, c'est écrit, je suis déjà prêt pour la libation. On m'offre la libation. Et le moment de mon départ approche. La libation, c'est quelque chose qui clôture le sacrifice. C'est pourquoi l'œuvre. Hein. Donc, c'est parfois plusieurs versions, c'est important. Donc, on fait le sacrifice. Au fait, la vie de Paul était un sacrifice. Et sa mort allait être la libation. Donc quand on fait un sacrifice d'un animal, la libation c'est mettre de vin, du vin, de l'huile dessus pour clôturer le sacrifice. Et Paul explique que sa vie a été déjà sacrifiée, maintenant c'est sa mort qui est un sacrifice de plus. Parce qu'on sait que les gens, même quand ils ont 90 ans, ils ne veulent pas trop mourir, c'est rare, s'ils sont bien. Voilà, on veut quand même rester sur terre, donc donner quand même, accepter sa mort, c'est aussi un autre sacrifice. Il dit, je suis prêt à être offert en libation. Je suis déjà comme... Et le moment de mon départ approche. Donc il s'approche de sa mort. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Finalement, Paul, malgré les immenses réalisations que nous, on peut envier en lui... L'homme étant un être éternel, même Paul était insatisfait. Il ne pouvait pas s'en vanter. L'homme est éternel, il faut le savoir. Il a des soifs éternelles. Donc, Dieu se manifestera en toi de sorte que malgré toutes les réalisations que tu vas accomplir, tu auras toujours une sensation d'insuffisance. Parce que tu es éternel. Et Dieu va t'ouvrir les yeux, va fonctionner en toi. Il va permettre cela afin que tu restes concentré sur l'éternité et faire sa volonté, même si tu ne saisis pas le bout. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Voilà. Il se vante que d'avoir combattu, d'avoir respecté Dieu, d'avoir été dans la volonté de Dieu, d'avoir bâti pour l'éternité et non pas donné un résultat de tout ce qu'il a accompli sur terre. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi, dans notre version, c'est écrit, mais leurs œuvres les suivent? Parce que les vrais chrétiens auront toujours une impression d'avoir fait passer beaucoup de temps sans obtenir de grands résultats. C'est l'impression qu'ils auront toujours. Et c'est fait exprès afin qu'ils attendent pleinement leur récompense au ciel. En même temps, ce verset-là est encourageant pour nous dire que ce n'est pas perdu. 1 Corinthiens 15, 58. On peut lire ça. 1 Corinthiens 15, 58. Si quelqu'un trouve une ligne. 1 Corinthiens 15, 58.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Est-ce qu'on peut commencer à lire un peu plus fort?
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
Amen.
Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Voilà. Il dit, soyez inébranlables, c'est-à-dire poursuivez. La chair, notre intelligence, le diable va dire, mais ça fait longtemps que vous faites le... Il dit, soyez inébranlables, parce que tout ce que vous faites n'est pas vain dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on aura des résultats qui sont visibles qu'au ciel, clairement. C'est pourquoi on doit changer notre façon de voir les choses. Ce n'est pas un conseil vers la médiocrité. Non, nous devons toujours confesser que Dieu fera des exploits avec nous. Nous devons rechercher des exploits avec le Seigneur. Pas de problème. Mais dans les projets éternels de Dieu et non pas dans une logique humaine. C'est ça la différence. Il dit, soyez fermes. Vous avez l'impression peut-être que vous ne produisez pas de résultats, mais non, ce que vous faites n'est pas vain. Il y aura une suite. Une fois, j'ai prêché à la Baule il y a plus de 12 ans, je crois. C'était un mariage et 95% de l'assistance c'était des païens. Là, d'ailleurs, même le haut-parleur qu'on avait amené a explosé avant la prédication. Eh bien, j'ai crié, j'ai parlé avec les yeux méchants qui me regardaient. J'ai parlé du Seigneur clairement, à tel point que j'ai fait encore l'appel du salut. Et les gens étaient bien en colère, attendant la fin, et il y a un monsieur qui a levé la main. Mais quand je suis parti le voir à la fin, non, c'est une dame, mais c'était un couple, ils étaient en couple, elle était en couple. Quand je suis parti la voir à la fin, elle a dit, je suis chrétienne, mais ce que vous avez fait devant ce parterre de païens, de franc-maçon, pour moi, j'ai trouvé ça hyper courageux. C'est pourquoi j'ai dû lever la main pour honorer la parole qui avait été prêchée. Mais, et son mari va me dire, quand ils ont compris que j'habitais la Normandie, ils ont dit, mais nous, on a prié, ça fait 20 ans pour que Dieu envoie en Normandie quelqu'un comme vous. Voilà. Le Seigneur répond aux prières. Et Jésus, dans Jean 4, il dit à ses disciples, vous avez été envoyés là où vous n'avez pas semé. On vous a envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé. Mais les gens qui ont semé, eux, ils vont penser peut-être qu'il n'y a pas eu de résultat. Mais c'est des projets éternels. Joseph, avant de mourir, il dit à ses frères, aux descendants, Dieu vous visite. Il vous sortira d'Égypte. Il leur dit, il vous visitera. Donc, il était convaincu que l'œuvre de Dieu continuait. C'est important qu'on travaille dans cet esprit-là. Sinon, on va se décourager. On va perdre la force qui nous est demandée dans 1 Corinthiens 15, 58. Travailler d'une manière ferme et inébranlable. On va perdre ça parce qu'on ne voit pas. Mais cette parole de 1 Corinthiens 15, 58 nous dit, on verra ça. Et Apocalypse 14, 13 nous dit, mais leurs œuvres les suivent. Attention. Leurs œuvres les suivent. Malgré le fait qu'ils ont galéré, ceux qui meurent dans le Seigneur, à l'époque, il y avait beaucoup de persécutions. Il dit, mais heureux êtes-vous dans le Seigneur. Vos œuvres vous suivront. Au ciel, vous n'aurez rien perdu de tout ce que vous avez dépensé. Donc, c'est une phrase pour nous dire ceci. Il est vrai, on ne peut pas nier, Dieu agit quand même dans nos vies, on voit aussi. Mais, cette exhortation nous dit aujourd'hui, même si on est insatisfait, on semble pas trop voir ce qu'on attend. Attention au ciel, on verra tout clairement. Et on sera heureux d'avoir semé autant. Parce qu'au ciel, c'est fini. Qui peut semer encore, c'est fini. Personne ne peut plus semer. C'est maintenant. Et la récolte, c'est au ciel. Donc quand tu arrives au moment de ta récolte, tu dis, mais heureux es-tu, parce que maintenant tu vas récolter tout ce que tu as semé. Donc déjà sur terre, on a une forme de récolte, comme quand l'enfant grandit dans le ventre de sa maman. Déjà dans le ventre de sa maman, à un moment donné, il a des cheveux, il a des yeux. À un moment donné, mais ça c'est rien, il y a encore quelque chose à imaginer que c'est l'enfant du roi. Quand il va sortir dans le ventre, et il va avoir 15 ans, vous voyez la suite. Les Rolls Royce, les châteaux, là, 20 ans, il va gérer tout ça, 24 ans. Et à un moment, il va devenir roi, carrément. Il dit, mais déjà sur terre, on voit certaines choses, mais on peut se dire, ah, tout ce temps passé pour que ça. Non, c'est pas pour que ça. L'œuvre du Seigneur est continuelle et éternelle et mêle beaucoup de gens, mêle beaucoup de temps aussi en même temps. Il y a des gens qui sèment, il y en a qui récoltent, il y en a qui mettent la fondation, d'autres mettent le mur, ainsi de suite. Mais c'est une œuvre éternelle. Et un jour, on nous dit au ciel, ces œuvres-là seront visibles clairement et on pourra fêter éternellement. Plus de marche arrière. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15:58, travaillez d'une manière ferme et inébranlable. Poursuivez. Le Seigneur est fidèle. Son œuvre est éternelle. Entrons dans cette logique-là. Et Dieu permettra, quand j'ai souffré récemment d'une douleur innommable, quand vous souffrez comme ça, vous êtes sans solution comme ça, malgré les médicaments, les choses de la terre ne valent plus quoi. Parce que vous n'avez plus goût à rien. Et heureusement, on a Dieu, parce que c'est là que tu te rends compte que chaque instant passé à servir Dieu, c'est important. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Je suis plus, on est là, on ne dépasse même pas 20 personnes, mais je suis plus sérieux, même comme s'il y avait 1000 personnes. Voilà. Parce que chaque instant est important. Parce que l'homme n'est rien. En 2 temps, 3 mouvements, on peut perdre la mobilité, perdre beaucoup de choses. Et se cacher même. Je me cachais, je ne voulais pas que mes enfants me voient souffrir comme ça. Mais c'est là que tu te rends compte que chaque instant où on peut servir le Seigneur est important. Avec le peu de force, tout cela n'est pas vain. Les œuvres nous suivront, mais c'est à nous de changer de mentalité. Bâtir dans la logique éternelle. C'est là que tu te dis, mais même si tu me donnes 1 million, dans ma souffrance, ça va me servir à quoi? À quoi ça sert de chercher à s'amasser de l'argent? L'argent doit servir Dieu. À quoi ça sert de s'amasser des biens? Ça doit servir Dieu. Vous savez, c'est pourquoi les gens qui se sont convertis au début, ils donnaient tout pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi dans leur tête ils se disaient, bientôt le Seigneur vient nous chercher? À quoi ça sert? La différence avec nous, c'est qu'on a 2000 ans d'histoire, on a vu le Seigneur ne pas revenir. On dit, il faut que je bâtisse ici sur terre, parce qu'il ne revient toujours pas là. Mais non, Apocalypse 14, 13 nous dit, nos œuvres nous suivront. Tu as une meilleure récompense au ciel, même si le Seigneur ne revient pas de ton vivant. Vis pour lui, vis pour l'éternité, investis pour l'éternité. Tu auras la récompense au ciel. Vivons pour cette récompense au ciel. Ne vivons pas pour l'obtention des résultats terrestres. Vivons pour la récompense céleste. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Christ est la vie recherchée de mon âme. nous ne soyons pas comme le jeune homme riche qui, dans sa conception, faisait beaucoup de choses, mais il avait une idée de sécurité terrestre, une idée de réussite terrestre, malgré le fait qu'il pouvait en apparence paraître le parfait enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais en réalité, il n'avait pas la logique de partir pour l'éternité, où on a l'impression que on est inutile sur terre. Mais toi, tu nous dis, Seigneur, qu'au contraire, lorsque nous nous dépouillons, nous devenons utiles pour le ciel, Seigneur. Et parfois, dans certaines souffrances, tu veux nous apprendre, Seigneur, que la terre n'est pas un endroit de sécurité, un endroit où on doit investir. On doit investir pour les projets éternels, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses et à les mettre en pratique. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, je fais quelques annonces.